Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur Radio Judaïka, le 90.2 FM, ou bien sur le site radiojudaïka.be, sur l'application Radio Judaïka, où vous nous retrouvez. Également, nous sommes le lundi 5 février 2024. Il est 20h et comme tous les lundis à 7h06, c'est l'heure dont joue la prolongation. Un générique que vous avez maintenant l'habitude d'entendre et on remercie Samuel Cujas qu'on salue pour ce générique de l'émission. On joue la prolongation et on commence aujourd'hui avec la présentation de nos chroniqueurs autour de la table. Comme tous les lundis, il nous apporte son sens de l'analyse de ce qu'il se passe sur et en dehors du terrain. C'est le fondateur de l'agence marketing sportive Sportimize, Alex Demeter. Salut, comment ça va?
Salut Blaise. Bon, le week-end était un peu plus compliqué avec le foot, mais le lundi soir, tout va bien.
Le lundi soir, tout va bien.
J'ai passé un bon week-end.
Je suis content pour toi.
On est là pour pour décortiquer cette journée de Jupiler Pro League. Vous l'avez entendu, c'est Henri Daniel qui est avec nous. Merci d'être avec nous, Henri.
Salut. Bonjour Blaise, bonjour à tous.
C'est un grand plaisir d'être avec toi ce soir et puis avec vous. Et le dernier autour de cette table, c'est son grand retour, Steve Gris, qui est de retour donc dans On joue la prolongation. Salut Steve, comment ça va?
Mais ça va bien Blaise, merci pour l'invitation, bonjour à tous. Alors moi je précise tout de suite, le football n'a pas d'effet total sur mon moral. À défaut de quoi, je pense que je serais en dépression, supportant le Standard depuis près de 35 ans. J'ai tendance à mettre une certaine distance. Mais justement, quand il y a une victoire, on s'en réjouit d'autant plus. Mais là, je n'ai pas beaucoup d'occasion de me réjouir. J'imagine qu'on y reviendra.
Ça date de l'année dernière, non?
Oui, ça date d'il y a quelques années, oui.
C'est évidemment compliqué pour l'instant pour le Standard de Liège qui souffre en Pro League. Au programme ce soir, on commence comme tous les lundis par le Belge de la semaine. En plus, ensuite, donc on décortiquera cette 24e journée de Jupiler Pro League. On fera également un petit point sur le mercato qui s'est refermé un peu partout en Europe. Et puis, on parlera avec toi, Alex, de marketing sportif au cours de la minute Sportimize. Le sujet de cette minute, Alex.
Justement, tu parles de transfert et de mercato. Ça vient de se clôturer. Donc, on va faire un petit tour d'horizon sur des clauses de contrat.
Très bien.
Des anciennes.
Sous le coup de 20h30, 20h40, on se retrouvera donc pour la minute Sportimize. Il est 20h03 sur Radio Judaïka. Vous êtes donc joue la prolongation. Eh bien, on va commencer. Et on commence avec la Pro League tout de suite. La Pro League. Cette douce musique qui berce nos week-ends. Alors la phase classique du championnat approche son terme. Il ne reste plus que 6 journées à disputer avant de passer aux play-offs. Les choses ont quelque peu bougé dans le top 6. Pas de changement néanmoins de première place. C'est toujours les deux clubs bruxellois, l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht, qui sont devant. On y reviendra. Mais on va commencer par la déception de la journée. C'est la défaite sur le fil des Brugeois face à l'Antwerp. Des Brugeois qui restait sur 15 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. La dernière qui remontait au 5 novembre en championnat face au leader de l'Union Saint-Gilloise. En Pro League, il restait depuis ce 5 novembre sur 6 victoires et 4 nuls. Une série qui les avait vus remonter en flèche au classement et rêver à mettre la pression sur les leaders avant le dénouement des playoffs. Ils étaient opposés au champion en titre l'Antwerp ce week-end. Ils ont connu une cruelle désillusion. Ils perdent 3 points. Avec une égalisation concédée à la 86e minute avant d'encaisser un deuxième but synonyme de défaite à la 99e minute. Et en plus, Hans Van Aken, capitaine, s'est fait expulser dans les dernières minutes, dans le temps additionnel. Comment expliquons-nous cette défaite? Qui veut commencer?
Pour moi, c'est la faute de l'entraîneur. Bon, il y a des choix un peu bizarres parfois aussi. mais surtout la motivation des joueurs. Tu mènes 0-1 à l'Antwerp, tu vois que l'Antwerp est en train de d'osser le ton, qu'ils sont en train de tacler comme si leur vie en dépendait pour justement tenter de revenir au score. Bah, il faut faire quelque chose. Et voilà, Zinckernagel est sorti, tu mets Boyata à la place. Boyata, on sait très bien que c'est une catastrophe. Je comprends pas pourquoi Boyata monte sur ce terrain encore.
Pour maintenir le score. Hein,
ouais, bah, c'est réussi.
Oui, non, mais enfin, dans l'idée, il est un joueur, donc on l'accorde de crédit, on met un défenseur.
Je préfère pourquoi mettre pas un joueur de Club Next, un défenseur qui a envie, qui se donne à 400%, que Boyata qui n'en a rien à cirer. Et ça, c'est lamentablement vu dans les derniers instants. Et c'est ça, pour moi, c'est ça le problème. Donc, chercher d'excuses. Bruges a failli la dernière demi-heure. Un match dure 90 minutes et pas 60, c'est tout.
Ce qui est assez choquant, je trouve, c'est une équipe assez expérimentée.
Oui.
Et ces deux gamins qui sont montés en fin de match qui crucifient le football club bougeois.
Oui, bon, ils tirent de loin. Mignolet, comme d'habitude, en phase classique, il laisse passer tous les ballons. Donc,
je te trouve dur. Moi, je n'exagérerai pas cette défaite. Bruges est dans un super trend. Clairement, tant au niveau de son bilan comptable qu'au niveau qualitatif, clairement, on voit qu'il monte en puissance. Je trouve que c'est une très bonne chose pour le championnat et en tout cas pour le spectacle qu'on risque d'avoir dans les derniers instants. Mmh. C'est une super chose parce que Bruges, c'est toujours, c'est toujours chouette de voir un Bruges à très haut niveau. Alors après, il y a des séries comme ça. Ils viennent de faire une série, comme Blaise l'a rappelé, assez importante. Ça ne me semble pas illogique face au champion, même si le champion est déforcé, dans une situation un peu difficile avec pas mal de blessés, avec le départ d'Arthur Vermeeren. Donc il y a quand même des choses qui sont pas faciles à l'Antwerp. Je suis pas choqué par le fait que, après 15 matchs, ils trébuchent une fois à l'Antwerp. Là où on est un peu plus choqué, évidemment, c'est de se dire que je regardais, c'est vrai que je me suis même dit à la 85e, 86e, c'est bon, je peux passer à autre chose. Parce que ce qui est là où c'est difficile psychologiquement, c'est parce qu'ils se sont pris vraiment un gros revirement fin de l'année. Mais on sait que l'Antwerp, ils ont l'habitude de ce genre de choses. Donc là, Bruges aurait quand même pu voir venir parce qu'on sait que l'Antwerp est capable de ça. Maintenant, comme je le disais depuis le début, je relativiserai cette défaite parce que il y a tellement de matchs, ils sont dans une bonne série et se prendre les pieds sur le tapis, c'est mieux maintenant peut-être que plus tard. Ce qui est embêtant aussi, et ça c'est vrai, c'est qu'ils avaient l'occasion quand même de boucher un peu le trou. Ils sont à 17 points du leader, même divisé par deux, ça commence à être beaucoup. Ils ont beaucoup de retard, donc ils doivent quand même... Ils doivent enchaîner pour essayer de se rapprocher le plus avant le début des playoffs.
Tu as surtout le match de coupe qui arrive, mais tu as surtout le match de milieu de semaine de la dernière semaine dernière contre Courtrai. Tu encaisses un bête but à la toute dernière seconde également.
Ils ont gâché.
Donc là, de 6 sur 6, tu passes à 1 sur 6 face au dernier, face à Antwerp qui n'est pas virevoltant.
Je suis plus choqué du match Courtrai, même s'il faut reconnaître que tous ceux qui ont regardé Courtrai ces dernières semaines, tu te rends compte que c'est plus du tout la même équipe. Hein.
On est
tout à fait dans un autre. Mais ça
reste le dernier du championnat qui va à Bruges. Et ça reste une faute d'Odoy.
Tu parlais des points, Steve, 17 points. Bruges est revenu à 41 points. Cette défaite et ces 41 points, selon vous, ils peuvent avoir une conséquence pour la fin du championnat avant l'arrivée au play-off?
Non, il peut encore se passer plein de choses. Je pense qu'il y a encore des matchs qui doivent... Je pense qu'ils ont des matchs contre des concurrents directs, hein, encore, si c'est pas de bêtises.
Et on a l'impression qu'à part l'Union, en fait, tout le monde perd des points.
Je vais parler d'Anderlecht, mais je conseille l'année 2024 avec deux matchs nuls, puis une victoire dont on va sûrement reparler. C'est clair que un point de match nul ne rapporte pas grand-chose. Hein. Et l'Union fait cavalier seul loin devant maintenant. Je pense qu'ils ont 10 points d'avance, si je ne m'abuse.
Ils ont 10 points d'avance, tout pile, ouais.
Oui, en sachant que Anderlecht a encore un match potentiellement à rejouer. C'est en appel maintenant contre Genk. Moi, Bruges, il y a deux choses où je relativise. C'est que on divise les points par deux. Alors, j'ai dit 17 points divisés par deux, ça reste beaucoup. Maintenant, c'est un play-off à 6 équipes. Tu vas jouer 10 matchs dans ces playoffs, donc il y a beaucoup 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 de points en jeu. Donc moi qui suis pas du tout un partisan de la division des points par deux, parce que je trouve que ça fausse quand même une bonne partie de la compétition, mais les données sont c'est ce qu'elles sont, et surtout elles sont connues de tous les acteurs. Si tu as la possibilité de te rapprocher un petit peu, si tu te retrouves à quelque chose comme 12 points, ce qui fait 6 points, en play-off, en quelques matchs, tout ça peut être renversé, pour autant que tu sois dans un trend positif. Donc je ne suis pas totalement inquiet. Ce qui me fait dire aussi que c'est pas une mauvaise chose, c'est que toutes les clubs ont des up and down dans une saison. Bruges a eu son down, on ne peut plus long, depuis, pas le début, mais en tout cas, un long automne et un début d'hiver. Je trouve ça plutôt positif que maintenant ils reprennent une forme assez importante. Je me dis que c'est de meilleur augure, c'est de très bon augure pour eux pour la suite. Parce que s'ils continuent dans ce pic de forme, ils vont peut-être être en forme au moment où il faudra vraiment prendre les points. Mmh. Je suis plus inquiet pour d'autres équipes qui n'ont pas encore eu leur down et qui pourraient, comme dans d'autres années, avoir leur période creuse au moment où les points valent beaucoup plus cher et où les points valent double.
Oui, bien sûr. Par exemple ?
Les deux qui sont devant, en tout cas.
C'est vrai qu'ils nous ont habitués à des grosses chutes lors des playoffs. Et ben justement, les deux qui sont devant, on va en parler. On va d'abord parler du deuxième. Les Mauves d'Anderlecht, ils l'ont emporté 1-0 face à la Gantoise. Ayn van Azebroek a pesté à la fin du match. Un but de Dreyer en fin de première période pour Anderlecht. Henri, on va commencer avec toi, évidemment. Tu fais quelle analyse de ce match ?
François est bien payé. Honnêtement, évidemment, c'est toujours embêtant que ça se passe sur une phase litigieuse et qui prête à discussion. Mais évidemment, je suis content des 3 points. Mais je pense que c'est quand même... Si on regarde le match de la Gantoise, qui n'est pourtant pas dans une bonne dynamique, ils font un beau match. Je pense qu'une bonne deuxième mi-temps, je pense qu'un match nul était plus équitable. Maintenant, sur le VAR, on peut en discuter encore des heures. Il y a eu un pénalty aussi en semaine qui a été sifflé contre Struiken, justement. Compliqué à dire. Maintenant, on parle aussi d'une phase d'un but d'Angulo annulé pour hors-jeu. Je sais pas, quand le VAR est arrivé dans le football belge, on s'est dit que ça va résoudre des problèmes, ce genre de problèmes de discussion, parce que l'image est... Sans pardon, ben, on voit que c'est...
Au final,
on est loin, très loin. C'est dommage, tout ce qui se passe autour du foot. Si je parlais du match contre Genk aussi, qui est potentiellement à rejouer. Ça... Je trouve que quelques décisions que ce soit, ça aurait été pris depuis très longtemps. On entérine le score, on refait jouer le même match.
Ouais. Ouais, ouais.
Je trouve que ça dure trop, ça va...
C'est surtout depuis 2 mois qu'il y a des problèmes de VAR.
Bon, il y a toujours eu
des discussions, mais là, c'est récurrent. C'est chaque semaine. Ici, à Anderlecht, hier aussi, le referee department a annoncé là tout de suite qu'il y avait une erreur et que normalement, le but de Gantois était valable. Fin de match.
Mais ça pose aussi la question du niveau d'arbitrage en Belgique. Au-delà de
ça, il est mauvais, il a toujours été mauvais, il sera toujours mauvais si on n'investit pas.
Mm-hmm. Alors, il y a quand même un élément assez marquant dans ce match, c'est que l'arbitre était quelqu'un qui s'appelle Jonathan Lardo. Il faut savoir que Jonathan Lardo, pendant plusieurs matchs, a été... Donc vous savez que les clubs ont un droit de révocation, c'est-à-dire un droit de la capacité de dire « nous avons un problème avec un arbitre pour un précédent et nous refusons que celui-ci vienne arbitrer les matchs pendant un temps déterminé ». Et Jonathan Lardo a été révoqué pendant un petit temps par la Gantoise et Ayn van Azebroek, justement. Donc, je me suis dit, cette chose est relativement connue. En regardant le match, quand il y a eu cette phase et qu'il est appelé, parce que moi, j'ai pas vu, honnêtement, on était d'abord tous impressionnés par ce goal de Julien de Sarre, parce que ça a été dit, les commentateurs disaient, c'est marrant parce que mes enfants emploient les mêmes mots, c'est une patate. C'était vraiment il la reprend, c'était vraiment magnifique. On a l'impression que même qu'elle ne sait pas rester dans les filets tellement elle est violente, et donc elle revient. Elle a été flashée à 130 km/h, ce qui est quand même,
À Bruxelles, c'est une sacrée amende, c'est
assez impressionnant. Et donc, j'avais pas bien vu, mais dès que le VAR a appelé Jonathan Lardo, je me suis dit, oui. Extrêmement difficile pour lui. Mmh. Lui a été révoqué. On était à la 86e, quelque chose comme ça. On est à la 86e minute. Il y a ce goal qui fait que la Gantoise revient à égalité. Qu'est-ce qu'il va faire? Si on l'appelle, c'est clairement qu'il y a plus qu'un doute. C'est-à-dire qu'il y a une phase où le VAR est prêt à le déjuger et on lui demande de venir voir parce qu'il y a peut-être une question d'interprétation. Mmh. C'est ça l'idée d'aller voir la phase. Les phases, c'est souvent parce qu'il y a des questions liées à un pénalty, à une main, est-ce que c'est volontaire, pas volontaire. Là, clairement, je ne savais pas dans quelle décision il a à prendre, et à prendre cette décision était quand même assez osé de sa part. En tout cas, ça prouvait une certaine indépendance, parce que il savait qu'il allait au clash avec Van Azebroek,
bien sûr.
Immédiatement, mais il l'a pris Si on me demande mon avis, mais de nouveau, je pense que ça s'équilibre toujours à la fin de saison, hein, notamment Henri parlait à très juste titre du pénalty de Malines qui était aussi léger en semaine. Mais là, pour moi, clairement, il y avait si faute il y a,
encore
j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment faute, et si faute il y a, elle peut pas déjuger en tout cas le goal. Et je suis vraiment surpris que l'arbitre ait pris cette décision là. Mais il faut replacer ça dans le contexte de Jonathan Lardot, de la Gantoise et d'Ayn Van Azebroek, qui est quand même un triptyque qui a fait du feu. Je me demande s'il va pas être de nouveau révoqué par la Gantoise.
Ça peut être, mais à ce moment-là, il prend sa décision en tant qu'arbitre dans un match, dans le feu de l'action. Il y a pas, tout ça ne joue pas tellement avec.
Je pense aussi qu'il y a le fait qu'on ait dit aux arbitres, c'est vous qui avez la dernière. La main sur la décision.
Oui, mais il joue ses points. Donc, il y a le VAR. Derrière, il joue son argent aussi. Hein,
il peut contredire le VAR.
Alors, je sais pas si vous en avez déjà parlé la dernière semaine, il y a eu quelques enquêtes qui ont été effectuées sur le VAR, avec cet élément qu'il y a de grandes rivalités dans le corps arbitral, et que certains arbitres qui se trouvent donc à Tubize en train de regarder, peuvent avoir en tout cas pour intérêt, ou ont déjà eu pour intérêt, de se dire qu'ils allaient déjuger un arbitre qui constitue un de leurs rivaux dans la quête à devenir un des meilleurs arbitres. Et donc,
en tout cas, c'est plus, Steve.
J'ai lu ça parce qu'il y a eu un reportage, je pense, de Canvas du côté flamand qui a mis ça à jour et en disant qu'il y a, en tout cas,
si.
C'est pas étonnant hein, qu'il y ait des rivalités. On est également dans un monde quasi professionnel et c'est logique qu'il y en a qui s'entendent bien, d'autres qui préfèrent qui ne sont pas mécontents qu'un se prenne les pieds dans le tapis pour que son nom arrive en premier lieu. Mais il y aurait déjà eu des affaires comme ça. Je dis pas du tout que c'est le cas cette semaine, mais en tout cas, ça rajoute une couche de défiance ou de complexité dans les questions du VAR.
C'est assez fou ce que tu nous dis là quand même, parce que c'est donc en gros pour des rivalités entre deux arbitres, on dévalue complètement le niveau de l'arbitrage belge et
la crédibilité,
l'image, la crédibilité du produit Pro League en fait.
Donc les enquêtes qui ont été menées sont arrivées à la conclusion que c'était pas du tout institutionnalisé, mais que certains arbitres du VAR, qui étaient dans le VAR, pouvaient avoir un intérêt à montrer ou à ce qu'on puisse identifier des fautes d'un arbitre de terrain qui permettent de contester plus sa prestation et l'autre mettre sa prestation en avant. C'est en tout cas ce que révèle, je pense, je vais regarder, mais je pense que c'est une enquête Canvas qui a été établie. Maintenant, il a bien été précisé que ce n'était pas du tout institutionnalisé. Mais donc, il y a tout le monde qui a ça en tête aussi à partir du moment où tu es appelé par le VAR. Hein. T'es appelé par le VAR, est-ce que c'est ton ami ou c'est pas ton ami qui est en train de regarder les images?
Le VAR, c'est vidéo assistance référé. Donc, c'est pas le référé. Le référé, ça reste quand même lui qui a le sifflet sur le terrain. Et le VAR, c'est une assistance vidéo. Et je pense qu'elle prend beaucoup de poids, plus que ce qui était initialement prévu comme...
Oui, mais ça reste absurde si maintenant, en tant qu'arbitre dans la VAR, tu vas inventer une faute...
Je ne crois pas qu'il s'agit d'inventer. Enfin, je crois qu'il s'agit de ne pas forcément faciliter la vie d'un de tes concurrents. Mm-hmm. Je crois qu'on était plus dans cet élément-là. Et je ne dis pas du tout que ce qui est arrivé en derrière la Gantoise, mais je suis quand même très surpris... dans ce match-là, un, qu'on l'ait appelé, et deux, qu'il ait pris cette décision-là.
Ouais. Mais est-ce qu'à ce moment-là, ça ne joue pas dans sa tête, mais est-ce que c'est malin de mettre Jonathan Lardot à un match aussi important pour la Gantoise et pas le faire petit à petit revenir dans un match plus facile, la Gantoise Eupen par exemple?
Après, je pense que Jonathan Lardot, à part la Gantoise, je n'ai pas eu à ma connaissance d'autres clubs qui l'auraient révoqué. En même temps, on a un nombre d'arbitres de haut niveau qui est quand même limité et je pense qu'il faut, s'il y a un doute quand une suspicion, la révocation limitée peut avoir un certain sens, il ne faut quand même pas donner au crédit au club de pouvoir se dire c'est moi qui choisis mon référé.
Ouais, bien
donc
sûr.
Là, il faut quand même garder certaines limites et à un moment, il faut lui faire confiance. Hein.
C'est sûr. On va rester à Bruxelles. Samedi, l'Union gagne 0-1 à Genk grâce à un but du revenant de la CAN Amoura. Grâce à cette victoire, les unionistes reprennent leur marche en avant. Ils n'ont plus été battus par un club belge depuis la mi-septembre. C'était justement face à Genk à domicile où ils avaient perdu 2-0 donc au classement, on l'a dit. L'Union compte 58 points, 10 d'avance sur Anderlecht, 7 d'avance sur le duo Anderlecht qui ont compte 7 d'avance sur le duo Club Bruges-Antwerp qui sont à égalité. Et les deux dernières places qualificatives pour les playoffs, elles sont occupées par la Gantoise avec 39 points et le Cercle de Bruges avec 36 points à égalité avec Genk. Chaque semaine, on parle de ça et chaque... Enfin, en tout cas, quand je suis derrière ce micro, je pose la même question. On a l'impression qu'il peut rien leur arriver à l'Union. C'est... Ils se comportent en champion.
Oui, pour l'instant, oui. Mais après, comme disait Steve, sans les nommer, il y a un passage à vide qui devrait arriver à un moment ou à un autre. Et si ça n'arrive pas... Bah...
Oui, c'est sûr que ce passage à vide, ils l'ont connu. Ils ont connu des désillusions les deux dernières années pendant les playoffs. Mais oui, enfin, moi, j'ai l'impression qu'ils sont d'une sérénité folle, en fait.
En fait, rien ne peut un peu leur arriver, même dans les moments où ils sont moins bien. Ce qui n'est pas du tout le cas, ce qui n'était pas du tout le cas au match à Genk. Hein.
Ouais.
Le match à Genk, clairement, même si le score était triqué, tout qui a vu le match a vu que, outre les cinq dernières minutes où Genk a un peu poussé, aurait pu revenir, Genk était complètement inférieur dans tous les niveaux de jeu, ce qui n'était pas le cas, je trouve, d'Anderlecht la semaine précédente, mais il était vraiment inférieur dans tous les niveaux de jeu par rapport à l'Union. Et donc, ce qui est impressionnant, je trouve, c'est à la fois la capacité à être au-dessus, qualitativement, mais la régularité, on parlait de Bruges, je disais, bon, c'est pas normal que Bruges, un moment tombe. À l'Union, on se demande, même les jours où ils sont mauvais, quand ils vont tomber. Mm-hmm. Je suis quand même, étant réservé, je suis un peu inquiet pour eux, de par ce que dit Alex. Et à un moment, ils sont très bons maintenant que les points comptent pour moitié.
Hein. Oui, et quand ça commence à être relevé.
Il faudra voir. Et alors, le nombre de matchs, j'ai regardé avant de venir. Leur calendrier jusque-là, mi-mars, il y a, je pense, une semaine où ils ne jouent pas, où ils ont une semaine sans jouer. Le reste du temps, c'est tous les trois jours. Ils jouent la Coupe de Belgique cette semaine, et c'est en aller-retour, chose qui, pour moi, entre parenthèses, c'est complètement ridicule. Absurde dans, ouais, ce calendrier,
uniquement en demi-finale.
Dans ce calendrier effréné. Je ne vois pas l'intérêt de jouer des allers-retours de demi-finale de Coupe de Belgique, mais c'est le cas. Ils vont jouer en semaine deux matchs de Coupe de Belgique. Ils vont jouer en semaine deux matchs de Conference League. Qui va clairement pas être facile. Et puis ils ont tous leurs matchs de championnat encore le week-end. Alors je suis d'accord. Et la différence entre l'Union de cette année et l'Union des années précédentes, c'est que l'Union a un tout petit peu plus de profondeur de noyau, tout petit peu plus. C'est-à-dire que surtout au milieu de terrain et en attaque, pas en défense, hein, mais au milieu de terrain en attaque. Mais il va falloir faire. Je sais pas comment ils vont faire pour jouer tous les trois jours et rester à un tel niveau.
Ouais,
et donc ça, c'est les grand défi de l'Union. Et quand je dis tous les trois jours, j'envisage le calendrier avant play-off.
Après, la Coupe d'Europe, on peut quand même se dire qu'ils ont peu de chances de se qualifier face à Francfort quand même, non? Ça fait deux matchs et puis... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va être compliqué.
Francfort n'est pas dans sa meilleure passe non plus des dernières années, hein.
Ils sont sixième du championnat, là, et ils sont à 5 points de la Coupe de la Champions League.
Il faut jouer les matchs. Hein, faut...
Ouais.
Ils ont rien à perdre.
Je disais ça comme ça. Effectivement, ils vont jouer les matchs. Et on l'a vu l'année dernière. Ils ont fait très bonne figure face à Leverkusen.
Face à Berlin aussi.
Mais je pense que ça va être très compliqué. Honnêtement, ouais. Personne ne leur en voudra s'ils ne sont pas qualifiés.
Oui, bien sûr.
Mais deux choses. D'abord, ils vont jouer deux matchs à fond. Ils vont pas être sur la réserve. Hein. Il n'y a aucune raison qu'ils soient sur la réserve, donc ils vont jouer et ça va être une grosse débauche d'énergie. Et puis deux, moi j'exclus pas du tout qu'il puisse passer encore un tour, hein. Ça va être extrêmement difficile, mais s'ils passent, je ne serais vraiment pas surpris.
Ouais, ouais.
Ce qui augmentera encore un petit peu leur calendrier, en plus de la potentielle finale de la Coupe des Belgiques. Mais enfin bon, une finale, ça c'est pas du débauche d'énergie, une finale ça se gagne, ça se joue pas, ça se gagne. Et, donc,
et puis c'est en fin de saison aussi.
Ouais.
C'est avant les playoffs.
Avant la fin des playoffs.
Est-ce qu'ils ont déjà décidé? Parce que je sais que c'était. Ils devaient s'organiser.
Il me semble. Tous les ans, c'est avant les débuts des playoffs, en tous les cas, parce que tu as un moment de battement pour les matchs en retard et pour les
finales. Ce qui était n'importe quoi, parce que tu as un club qui peut déjà être qualifié.
Alors la finale, c'est le 9 mai 2024.
Ah, c'est en plein dans les playoffs.
Encore un truc intelligent.
Ah bah ça.
Mais ils sont à une année d'euro, hein, donc il faut. Et il y aura, de ce que j'ai compris, il y a que deux semaines entre la fin du championnat et l'euro. Ouais. Et après,
des matchs
entre parenthèses, et entre l'euro et le début du championnat, il y aura également deux semaines.
Ouais, c'est fou.
Oui,
c'est
mais fou. Pour autant que la Belgique arrive en finale. ce que je ne vois pas nécessairement arriver. C'est pour une autre émission, ça, Blaise.
mais non, moi, je trouve, en tout cas, oui, l'union marche sur l'eau, mais ils sont vraiment agréables à voir jouer. Ils sont agréables à voir jouer, vraiment.
Ce qui est impressionnant, c'est qu'en changeant d'entraîneur, en changeant le noyau, d'année en année, ils gardent la même confiance, la même dynamique. Ouais.
Je les trouve encore meilleurs, moi, cette année. Parce que ce duo Puertas-Amoura, et Amoura qui est cette espèce qui a marqué de la tête, hein, mais qui est ce feu follet et qui joue maintenant toujours avec une tour à côté la plupart du temps Nilsson, mais ça peut être un des deux autres, là, Eckert ou Rodriguez. Ah, c'est très, très, très complémentaire. Et alors, il varie le jeu. Hein. Par exemple, on a vu je ne sais pas combien de goals ils ont marqué déjà de coups francs avec une tête au second poteau. Là, comment est-ce que Marc Amoura, il vient couper la trajectoire au premier poteau sur un centre très sec.
C'est impressionnant.
Ouais. Anthony Maurice, le gardien, à la fin, après le match, il déclare c'est un match référence au niveau défensif.
Ils n'ont pas encaissé.
C'est le cas. Au-delà du fait qu'ils n'ont pas encaissé, est-ce que c'est peut-être quelque chose qui leur faisait défaut et qu'ils commencent à améliorer?
Ils ont quand même pas mal de clean sheets et ils sont récompensés par ça aussi. Donc, je parle d'un point de vue jour de congé, etc. Ça, on le sait, comment ça se passe. Donc, je sais pas, c'est pas plus référence qu'un autre pour moi.
D'accord. Non, mais ça faisait un petit temps qu'ils n'avaient plus de clean sheet, je crois. Et donc, c'est ça, alors. Mais moi, je les trouve toujours à la limite. Hein, parce que, donc, en fait, au centre, tu as juste Christian Burgess.
Qui joue sur une jambe, quand même.
Il est toujours à la limite. Hein.
Ouais.
Toujours, tu te demandes toujours s'il va terminer le match.
Surtout à Bruges, l'autre fois. Désolé.
Non, mais clairement. Et là, il se prend une carte jaune vers la 25e minute. Et les commentateurs du match à la télé disaient.
Il ne va pas terminer.
Ils disaient ce serait peut-être une bonne idée de le sortir à la mi-temps. Alors,
tu
oui.
Mets qui
eh bien, c'est ça. Je disais, il n'y a pas de profondeur en défense du tout. Je pensais qu'au mercato, il prendrait un défenseur en plus, au moins pour.
Je pensais ça de Bruges aussi. Hein. Tu te retrouves avec Boyata qui te perd des points et Odoi aussi.
Ouais, et donc défensivement, ça c'est pour moi le là où les adversaires de l'Union peuvent faire mal. Et tout le monde sait que Burgess est super, mais par exemple si tu le prends dans son dos,
c'est ça,
il ne revient jamais.
Un ballon dans le dos, il ne revient pas, ou alors c'est carton rouge.
Mais qui est un joueur qui a le style Amoura qui part en profondeur comme ça pour ennuyer Burgess? Faut me le trouver.
Ouais, c'est sûr. Il
sort, mais c'est un flanc.
Il y avait Orban, mais il est parti.
Ouais. Orban,
il jouait plus.
Il jouait plus.
Orban,
t'as vu Fofana à Lyon, lui au moins il savait le faire, mais il était sur le flanc.
On va aller dans le bas du classement maintenant. Petit séisme dans le bas du classement. Courtrai ne perd plus depuis 4 matchs.
Ah, je pensais qu'on avait parlé d'autres roues.
Non, on n'est pas encore si bas. Là. On fait crescendo, quoi.
Non, on va avant de parler du Standard, j'aimerais quand même parler de Courtrai. Donc, ils n'ont pas perdu depuis 4 matchs. Ils l'ont emporté face à Charleroi qui sombre petit à petit. Ils ont 18 points, soit 6 de moins que l'OHL, qui est 12e et dernier non concerné par les playoffs de maintien.
Il vient aussi d'enchaîner.
On l'imaginait pas du tout depuis le début du championnat. Courtrai pourrait être sauvé.
C'est chaud.
Disons que là, pour l'instant, ils sont virtuellement à 5 points et il y a des play-downs. Mais dans les play-downs, c'est très compliqué parce que tu as 4 équipes qui luttent pour le maintien ou contre la relégation. Mais tu as une place qui est à coup sûr la bonne. Oui. Et c'est la 13e. Tous les autres joueront un barrage ou dégraderont. Et tu te retrouves quand même avec Eupen, RWDM, Charleroi, OHL. Mmh. Et malheureusement, Standard et Westerlo ne sont qu'à un point de ça.
C'est difficile à dire. Moi, j'étais très impressionné par Courtrai, parce que je les avais complètement enterrés.
Ouais, moi aussi.
Je n'y pensais déjà plus. Et je me rappelle que j'étais venu au début de l'année, on en avait parlé avec Alex, et tu as dit oui, mais il se passe des choses là-bas, ou de toute façon, c'est compliqué en termes de noyau. Mais là,
tout était très compliqué, mais force est de constater qu'ils ont remis le bouc à la porte et le Fir Alexanderson fait des miracles.
Et il a signé pour plusieurs années, j'ai entendu.
Ça, je ne sais pas. Mais,
c'est étrange, hein, quand tu es là, tu as cette mission, les missions classiques de Peter Maas, de tous ceux qu'on fait toujours venir pour essayer au mercato d'hiver pour essayer de sauver. J'ai entendu ça qu'il a un contrat pour plusieurs saisons.
Ça rassure tout le monde. Hein.
Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec Debouc? Il a fait 3 matchs, il est parti.
Apparemment, il y a eu un souci, il y avait de la soupe au cerfeuil qui manquait, il n'était pas très content. Et pour le terrain d'entraînement, ça, tu rigoles, Steve, c'est pas une blague, c'est ce qui était sorti dans les médias flamands. Mmh. Et donc, ce n'était pas la bonne personne à la bonne place.
C'est ça.
Et donc, oui, moi, Courtrai, c'est un point d'interrogation. Parce que leur métamorphose, pour moi, je n'arrive pas vraiment à l'expliquer. Et je ne sais pas si c'est un feu de paille, ou si vraiment c'est structurel et qu'ils vont en fait de manière totalement inattendue s'en sortir. Je n'ai pas les réponses à ce stade. Je pense qu'on y verra un tout petit peu plus clair dans les deux, trois prochains matchs.
Il y a un descendant direct.
De toute façon, pardon?
Il y a un descendant direct.
Deux descendants directs. C'est 15 et 16 descendent directement. 14 jouent un barrage contre le vainqueur du tour final de Division 1B. Mais donc, tu as de toute façon une grosse équipe qui risque de passer à la trappe. T'as RUEDM, Charleroi, Standard. C'est un gros nom qui risque potentiellement de se retrouver dans les play-downs, ou pire.
Si on y voit un petit peu plus clair du côté de Courtrai, il y a un endroit où on n'y voit pas du tout clair, Steve. Samedi, le Standard fait match nul, 2 buts partout contre les RWDM. Après le match, grosse colère du coach Ivan Leko, qui s'en est pris à quelques-uns de ses joueurs. Il a demandé, les supporters ont demandé des comptes de leur côté. C'est la crise.
Oui, enfin, c'est la crise depuis le début de l'année. Hein.
Oui.
Là, maintenant, tout le monde s'en rend compte depuis le début de l'année. En fait, ce que je trouve assez impressionnant, c'est la résignation des supporters.
Oui.
Parce qu'on
dit. C'est pas leur habitude.
Ah non, pas du tout. Mais ils sont, je pense qu'ils sont résignés. Peut-être un mot un peu fort parce qu'ils sont pas là, mais ils sont. Et en fait, ils ne voient pas d'éclaircies, ne voient pas là où il peut y avoir de prise. Moi, j'ai ce souvenir d'avoir été à Sclessin il y a quelques années. Un Standard Zult qui avait dû être arrêté parce que les supporters allaient dans la T1, dans la loge de Duchâtelet, et parce que je sais pas, parce qu'on n'allait pas être en play-off 1, ce qui était considéré comme une infamie et une énorme défaite. Ici, je n'ai jamais vu le Standard aussi proche de manière durable du bas de classement. Donc c'est pas qu'on a perdu le fil des leaders, c'est qu'on est clairement dans les six moins bonnes équipes de Division 1. C'est se dire ça est un constat dur, mais est un constat réel.
Ils ont un calendrier, les deux prochains matchs, ils reçoivent Oudeuvre-les-Louvain et ils vont à Westerlo.
Oui, non, ils ont un bon calendrier, ils ne peuvent maintenant, ça, ils ont toutes les chances de leur côté.
Ils prennent 6 points sur ces deux matchs.
Oui, mais pour moi, ils ne sont pas meilleurs sur le fond qu'OHL ou Westerlo. Je ne dis pas qu'ils vont pas gagner. Je dis juste que c'est pas du tout des matchs où on va se dire relax, ils vont s'en sortir. Ça va être des bagarres, comme des bagarres on a l'habitude de voir de fond de classement. Et non, je disais vraiment. Ma question, j'en ai parlé un peu à quelques amis qui sont encore sur place, supporters. Il y a une espèce de résignation, de se dire, de toute façon, on n'a pas de vision, on ne sait pas du tout où on va, on n'a clairement pas le noyau, on n'a pas les dirigeants, on n'a pas l'argent, on n'a rien. On n'a rien qui permette de dire que dans les 10 prochaines années, on va aller vers quelque chose qui est mieux. Et donc, il y a, pour moi, une question existentielle, je dis bien existentielle, qui se pose pour le Standard. Soit on trouve une solution structurelle qui leur permette de se dire « ils redeviennent ce qu'ils sont », soit il va falloir faire vraiment son deuil du Standard tel qu'on l'a connu. Parce que là, c'est pas possible. Je regardais un reportage, de nouveau,
sur Canvas,
de la RTBF, où il disait... Ils étaient en stage, c'était à Marbella, je pense. Ils étaient en stage à Marbella.
Cet hiver.
Il y a évidemment, comme dans tous les stages, des agents qui rôdent autour. Les agents, ils disaient, mais en fait, voilà, ça ne sert même à rien qu'on soit là. Parce qu'on nous demande de faire venir des joueurs gratos.
Ouais.
On nous demande de. Il n'y a pas d'argent. Donc on fait venir des joueurs. Alors, le Standard essaie de négocier des options d'achat en espérant que s'ils sont bons, ça ira mieux et ça leur permettra d'acheter. Mais la plupart des joueurs, ils le louent sans option d'achat parce qu'on part au plus pressé. Et tous les clubs de 777 sont assez forts dans la même dynamique. Donc, je comprends la résignation des supporters, mais la résignation est à mesure de leur inquiétude. Maintenant, je ne sais pas jusqu'où ils ont fait leur premier élément où ils s'énervaient maintenant contre la WDM. On va voir les prochains matchs.
Oui, il y a un supporter qui est descendu dans le vestiaire après le match. Voilà.
Mais c'était toi ?
Moi, je suis assez impressionné de voir que, je sais pas si vous avez regardé les matchs, en tout cas le début, parce que les matchs du standard, c'est horrible à regarder ces derniers temps, mais à Sclessin, d'abord, les tribunes sont quasi pleines. Et il y a des shows pas possibles, oui, ils font des shows lumineux, les supporters mettent de l'ambiance comme si on était en train de se battre pour le titre. Donc il y a tout ce qu'il faut. Et moi je crois que ce club doit être au plus vite racheté par des bons investisseurs et qu'il y a un projet, 10 ans qui soit mis en place.
Un plan sportif, parce qu'il ne faut pas oublier toutes les dettes qu'il y avait aussi. Hein. Et tu parles de Duchâtelet il y a quelques années, les supporters lui en voulaient et tu sais comme moi pourquoi. Les résultats sportifs n'étaient pas bons, mais il y avait des échos qui allaient qu'il était en train de vider toutes les caisses et c'est ce qui s'est passé. C'est ça aussi du Châtelet, c'était pas nécessairement la place en play-off. Par contre, ce que je trouve paradoxal, Steve, c'est que tu crois encore dur comme fer que Bruges pourrait encore prendre le titre à 17 points de l'Union, mais le Standard n'est qu'à 11 points des play-off. Hein.
Oui, mais enfin, il n'y a pas totalement la même dynamique.
Non,
la même qualité d'effectif.
Oui, on n'est pas... voilà.
Il y a beaucoup d'équipes entre les deux.
Et puis, il y a quand même une grande différence. C'est que Bruges et l'Union seront dans les play-offs 1 où on divise par deux. Mmh. Le Standard ne sera jamais dans les play-offs 1. Donc ça change quand même très fort. Et je crois que le mal est vraiment... Enfin, je l'ai déjà dit mille fois, mais le mal est vraiment, vraiment très profond. Mais là, on touche presque le fond. Parce que jouer la relégation, je ne pense pas que quelqu'un l'aurait vu venir ces dernières années.
Tu parlais de cette Partners et d'un rachat que tu appelles de tes vœux. Ils sont prêts à lâcher, tu penses ?
Honnêtement, c'est une nébuleuse. Hein. Il n'y a personne qui sait vraiment quelque chose là-dedans. Personne ne sait. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'ils étaient là. Ils étaient là parce que Venanzi, simplement, était à bout de souffle, n'avait plus de sous et ne savait plus quoi faire du club. Il a mis ce club, il a donné mission à un des grands cabinets d'audit de pouvoir, comme beaucoup de clubs font, pour essayer de trouver des repreneurs. On ne peut pas dire que les gens soient bousculés opportunément. Hein.
Ouais.
Quelques fonds d'investissement, mais eux sont arrivés et ils étaient prêts. Et je pense que Venanzi, il devait vite partir.
Ouais,
et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais sinon, c'est que vous vous rendez compte que les joueurs, là, je ne savais même pas, moi, pourtant je suis bien les réglementations de l'Union belge. En fait, le Standard a maintenant un contrôle par les commissions de licence mensuel, c'est pas une fois par an, hein. Mensuel, parce qu'on doit voir qu'ils payent bien leur dette sociale, leur dette fiscale et les joueurs. Les joueurs, apparemment, et là ça a fuité, je pense, cette semaine ou il y a deux semaines, les joueurs ne sont payés avec 20 jours de retard depuis plusieurs mois.
Ah oui.
Là, il faut quand même cadrer aussi. Tu as le droit de les payer jusque le 8e ou le 9e jour ouvrable du calendrier. Donc, par rapport au délai, 20 jours, ça paraît énorme. 10, 12 jours, c'est déjà un
peu. Mais en termes de confiance.
Pourquoi est-ce qu'on fait ça à des joueurs qui sont sous contrat? Les joueurs, il y a des dates qui sont mises dans les contrats. Pourquoi est-ce qu'on leur fait ça?
Ça, c'est quand tes droits, ils attendent tout simplement que les droits TV tombent aussi. C'est aussi par période. Donc, il y a tout un jeu fiscal et comptable qui se joue là-dedans. Bah, tu le sais comment. Hein. Il y a tout ce jeu qui se joue aussi. Mais après, 7-7-7, oui, c'est très compliqué, c'est très opaque. Et leur réussite en Allemagne, elle n'y a pas non plus. Les Kaiserslautern l'année passée, c'était magnifique. Cette année, c'est un drame. Et on ne peut pas dire que Séville soit.
Ah oui, Séville, c'est
foudre de guerre non plus cette année. Donc,
et c'est une. En fait, ce qui m'embête un petit peu, je suis pas fan que ce soit des fonds qui investissent, mais ok, c'est la réalité du football moderne et on doit l'accepter. Mais il faut qu'on on voit un tout petit peu clair tout de même. Dans un fonds, il faut qu'on ait des personnes qu'on identifie. Il faut que, ça fait partie de la finalement.
C'est pour ça que c'est opaque.
Ça fait partie de l'identification au club en principe. Hein. Oui, mais il y a beaucoup de fonds qui investissent dans des clubs anglais, des fonds qui investissent dans des clubs français, des fonds qui investissent dans des clubs belges.
C'est
mais
opaque
on voit
aussi Tony Bloom qui crée un fonds et un deuxième fonds et on met un club dans l'un, l'autre club dans l'autre. Comme ça, si tu joues en Coupe d'Europe, il y a pas d'ambiguïté.
Non,
etc.
Ça c'est la structuration. Je suis d'accord. La structuration. Ok, je suis d'accord avec toi. Mais ça c'est la structuration. Dans le football, on doit pouvoir s'identifier à tout de même quelqu'un qui représente, indépendamment du montage financier, fiscal qui est mis en place, quelqu'un qui représente la voix de la direction et qui va annoncer un peu à tous les amateurs du club, parce que ça représente beaucoup de monde, un peu le projet tel qu'il est mis en place. Il y a ce CEO Pierre Locke qui est super, hein. C'est quelqu'un qui a monté les étapes au Standard, qui est quelqu'un de très intelligent, de très bonne volonté, qui explique ça. Mais on voit pas bien où on va. Et honnêtement, regardez, parce que si on va revenir un peu sur le terrain pur football, regardez le Standard jouer, ça manque de fond très sérieusement.
Oui, moi j'ai regardé un petit peu le match de ce week-end, j'ai pas tout vu. Mais les deux équipes, c'était insipide, quoi. C'était inintéressant à regarder et en fait, t'as juste pas envie. Et je peux comprendre les supporters qui, comme toi, dans votre cas. En fait, c'est plus un amusement, quoi, de regarder le Standard cette saison.
Mais en fait, moi, je trouve que c'est quand même relativement spectaculaire sur RWDM Standard parce que ça allait d'un camp à l'autre parce que tu sentais que les deux équipes, c'était vraiment.
Oui, c'est complètement
décousu. On lance la balle et puis, et puis on court, c'est totalement décousu, il n'y a pas de structure. Je trouve que le Standard, parce que tout le monde était déçu, mais je trouve que le Standard est relativement bien payé parce que si le RWDM gagne, il n'y a absolument rien à redire. La sortie de l'écho, je ne comprends pas. Je ne sais pas où il veut en venir. Il est là depuis 4 matchs. Mmh. Il a 2 points sur 12. Ouais. Alors, je ne dis pas que c'est sa faute. Voilà, il débarque dans un sac de nœuds. Mais par contre, son attaque directe dans les médias vis-à-vis des joueurs, je ne sais pas quel est son plan derrière ça. Mmh. Quel est son plan derrière ça ? Parce que c'est osé. Est-ce que c'est créer un électrochoc ? Peut-être. Est-ce que ça va être efficace ? J'en doute. Je ne sais pas ce qu'il cherchait par cela.
Il est 20h40, on a fait 40 minutes sur la Pro League, c'est assez, j'estime, je sais pas ce que vous en pensez. On va faire quelque chose que j'ai oublié de faire en début d'émission, c'était le Belge de la semaine. Alors, le Belge de la semaine, on va commencer avec toi Alex, qui est ton Belge de la semaine ?
Mais écoute, on peut faire assez bref. On a eu un transfert durant le mercato qui est Cyril Ngonge qui est parti de Vérone pour rejoindre le Napoli. Donc c'est quand même une belle prestation, un beau transfert.
Et le champion en titre.
Le champion en titre, justement, jouait contre Vérone ce week-end et Cyril Ngonge a permis aux Napolitains d'égaliser. Même si le but est accordé à Davidovic, c'est Cyril qui a tiré. Et donc, il est à l'origine de l'égalisation. Donc c'est une bonne entrée en matière pour le fils de Michel qu'on salue s'il nous écoute. Toujours sympa de discuter foot avec lui. Mais donc voilà, une bonne entrée en matière. Et qui sait ce qui va se passer ? Parce qu'on a eu des petits Loïs Openda et d'autres joueurs du même type et du même profil qui ont fait de très belles choses par la suite. Donc, de bons débuts.
Très bien. Profil à suivre. Henri, ton Belge de la semaine.
Moi, c'est un petit jeune aussi. C'est Hugo Broos.
Non, très jeune.
Hugo, ce qu'on a un peu oublié, il était sorti des radars en Belgique, mais il est actuellement demi-finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Afrique du Sud. Faut se rappeler qu'il a déjà gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun en 2017. Et donc, il a quand même un nom en Afrique assez prestigieux et en Belgique aussi, en fait, comme joueur et comme entraîneur. Donc il était un peu sorti des radars, il est un peu réapparu pour pas mal de monde à la lumière de cette CAN qui se déroule en ce moment et des demi-finalistes, donc affaire à suivre.
Demi-finaliste, donc ce sera.
Le Sénégal, je pense.
La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire joue contre le Congo. C'est la Guinée. Non, c'est pas la Guinée. Je sais plus. Bref, c'est cette semaine en tout cas.
Pays africain en tout cas.
On en parlait hors antenne. Je trouve que le choix d'Henri est vraiment excellent parce que on s'est dit tous les deux, on avait complètement oublié Hugo Broos.
Absolument.
Hugo Broos est entraîneur depuis maintenant combien ? Au moins 40 ans. Et chapeau à lui parce que j'avais oublié qu'il avait encore une carrière. Il fait partie de ces gens qui ont une super carrière d'entraîneur en Belgique. Il entraîne les plus grands et maintenant il fait une carrière internationale, même si c'est pas dans nos radars peut-être direct, qui est formidable.
Il a commencé sa carrière d'entraîneur en 88.
C'est pas mal. Et il jouera d'ailleurs contre
le Nigeria mercredi à 18h et le Congo Côte d'Ivoire donc mercredi à 21h. Je trouve ça hyper stupide de faire jouer les deux demi-finales le même jour l'une à la suite de l'autre, mais ça c'est mon propre avis.
Écris-leur une lettre.
Ouais, je sais pas s'ils m'écouteront.
Steve, on leur enverra le podcast.
Voilà, Steve, ton Belge de la semaine.
Eh bien, un ancien brugeois, Charles de Ketelaar, je trouve formidable. Moi, c'est un joueur que j'ai toujours trouvé très élégant, vraiment plein de promesses à Bruges. J'étais déçu, évidemment, de son transfert, en tout cas de sa situation à l'AC Milan, mais je pense que la marche était... Il a peut-être choisi une marche trop haute, ou en tout cas, les astres se sont pas alignés, et donc, se pose toujours la question, lorsqu'il y a quelqu'un qui réussit bien en championnat de Belgique, qui fait un gros transfert et qui ne perce pas, quelle va être sa destinée ? Est-ce que ça va être une carrière moyenne ou est-ce qu'il va rebondir ? Eh ben, on a, en tout cas, pour le moment, un début de réponse pour Charles de Ketelaar, qui vient encore de marquer un doublé ce week-end, qui est depuis le mois de décembre, je pense qu'il est à 7 goals et 5 assists ou quelque chose comme ça. C'est le joueur qui est le plus efficace d'Italie depuis le mois de novembre et qui est en train de connaître à l'Atlanta une renaissance. Et je trouve ça vraiment formidable parce qu'il faut avoir du caractère quand... Ben voilà, il est encore très jeune, il quitte son pays, il a une marche un peu haute, ça ne fonctionne pas. Il a un challenge dans le même pays et là, il est appelé maintenant par les médias italiens le roi de Ketelaar. Ben, je trouve que c'est un super comeback, c'est génial pour lui, c'est super chouette pour le championnat d'Italie. Et je suis sûr qu'il va pouvoir mettre maintenant ses services le plus rapidement possible au service de notre équipe nationale, qui, je trouve, de manière très optimiste, cette nouvelle génération a quand même, quand même de la gueule. Hein, parce qu'entre Alex, tous ces petits noms qui débarquent et qui vont pouvoir constituer vraiment même des remplaçants de ceux qu'on est déjà en train de mettre en place, on n'aura peut-être pas l'équipe la plus talentueuse et gagnante, mais on aura une équipe très joueuse et très challenging pour les prochaines compétitions.
Il suffit de voir l'Italie au précédent Euro, hein. C'était une surprise générale.
Et donc, je m'en réjouis. Je trouve ça très excitant et de bon augure pour le futur.
Autre joueur qui a été prêté par le Milan AC, qui est belge et qui était pensionnaire de notre Pro League, qui a aussi marqué ce week-end avec Bologne, c'est Alexis Salmakers, qui n'était pas titulaire, mais qui est rentré. Et devant à Bologne aussi une ancienne connaissance du championnat, en la personne de Zirkzee. Moi, pour ma part, eh bien, j'ai choisi Loïs Openda. En 20 journées, il a marqué, donc il a inscrit 14 buts et donc il a battu le record de buts sur une saison pour un Belge. Il dépasse Emil Mpenza qui avait marqué 13 buts avec Schalke 04 lors de la saison 2000-2001. Openda donc qui a participé à la victoire de son équipe Leipzig contre l'Union Berlin. 20h47, c'est l'heure de la Minute Sportimize. Et bien aujourd'hui, Alex, on parle de
mercato, parce qu'il s'est achevé dans la plupart des championnats. Et qui dit mercato dit transfert de joueurs, qui dit transfert de joueurs dit nouveau contrat. Et je me suis plongé dans certains contrats un peu spéciaux qu'on a vus les dernières années. Et donc j'avais trouvé des particularités. Donc on avait Lionel Messi, quand il a signé à Barcelone, il avait une clause qui devait apprendre le catalan, par contre, pour son club. Aussi bizarre que ça puisse paraître, donc il y avait cette obligation-là. On a eu, pour rester à Barcelone, Luis Suarez, qui lui avait une clause anti-morsure dans son contrat. Donc s'il mordait un adversaire, il avait une triple pénalité financière.
On était sur le ring avec Mike Tyson.
Par son club. Donc c'est assez bizarre. Ceux qui ont joué FIFA 99 comme moi s'en souviennent peut-être, l'attaquant de Francfort, Rolf Guyer-Mien. Lui, dans son contrat, il a fait mettre que sa femme était obligée de prendre des cours de cuisine, en Allemagne en plus. Donc, c'est assez spécial, mais c'était une clause qui était vraiment mise dans son contrat. On a notre ami Ronaldinho à Flamengo. Il avait une clause dans son contrat qu'il avait le droit de sortir 2 soirs par semaine en boîte. Donc, sans être sanctionné, c'est pas mal du tout.
Pas très étonnant.
Non. Et à la Juventus, il y avait une clause spéciale pour Moïse Keane, car on se souvient, le sponsor de la Juventus, c'était le New Holland Group, donc des tracteurs qui appartiennent au groupe Fiat, Agnelli, la Juventus. Et Moïse Keane avait reçu 2 tracteurs pour son père. Ou en tous les cas, c'était la clause du contrat, mais finalement, le père n'a jamais reçu ses tracteurs, donc il n'était pas très très content. Ils ont attaqué la Juventus, qui a finalement donné ses 2 tracteurs. Et le dernier, j'avais par hasard son maillot à la maison, donc si quelqu'un le connaît, peut-être Steve.
Ce nom me dit quelque chose,
c'est
tu sais.
Stefan Schwartz, et oui. C'est un des meilleurs joueurs suédois en fait de l'histoire, parce qu'il a quand même défendu les couleurs du Benfica, de la Fiorentina, d'Arsenal, et en fin de carrière, il a signé à Sunderland. Mais il ne voulait pas rester longtemps à Sunderland, et Stefan Schwartz a eu la bonne idée donc de mettre une clause dans le contrat. Et c'était la fameuse clause spatiale. Donc si les voyages vers l'espace se démocratisaient, son contrat s'arrêtait et il pouvait aller jouer dans l'espace.
c'est une bonne...
Je trouve ça fort de le demander, c'est fort de le proposer.
En tout cas, c'était dans le contrat.
C'est un bon moyen de terminer cette... Écoutez, moi je ne connaissais pas ce Stefan Schwartz, mais...
Il est où maintenant ?
Dans l'espace. Au 7e ciel.
Il tourne.
Voilà, c'était donc la minute Sportimage sur les clauses insolites des joueurs de foot. Alors, il nous reste 7-8 minutes pour faire un petit tour d'Europe. On va commencer par l'Angleterre parce que c'est là qu'on a vu le plus gros spectacle. C'est Arsenal qui s'impose face à Liverpool, qui revient à 2 points de Liverpool. Le Manchester City est à 5 points avec 2 matchs en retard. La course au titre est donc relancée. Encore une fois, la Premier League ne nous déçoit pas. C'est le mot que je cherchais. Vous avez un favori ou bien on attend?
Compliqué, hein.
Très
Manchester
compliqué.
Manchester City.
Ouais. Moi aussi.
Dernière année du Jürgen Klopp, il va tout donner.
Oui, c'est vrai.
Je mettrai une petite pièce sur Liverpool.
C'est une annonce surprise quand même.
C'est vrai qu'on n'est pas du tout revenu là-dessus.
Pourquoi l'annoncer si tôt?
Ben, écoute, il faut lui demander. je sais pas.
Je pense que dans un groupe, c'est mieux d'éviter toutes ces spéculations et que va-t-il se passer. Au moins, tout est clair pour tout le monde. Et disons que c'est en club, c'est pas comme notre ami Robert Wasech, paix à son âme, qu'il avait fait en 2002, en annonçant avant la Coupe du Monde qu'il allait aller faire des prouesses au Standard.
Ouais, tu t'en souviens, Steve ? Oui, parce qu'il a tenu 5 matchs, si mes souvenirs sont bons.
C'est ça.
Moi je me dis que ça peut être. Je serais content pour lui qui termine sur une apothéose comme ça.
Ouais, bien sûr. Ouais, ce serait vraiment génial. En Espagne, le Real et l'Atlético font un partout. Et Gérone fait 0-0 face à la Real Sociedad. C'est donc la Gérone qui s'accroche à cette deuxième place, à 2 points du Real, à 6 points du Barça, 8 points de l'Atlético et 11 devant l'Athletic Bilbao qui est 5e et actuellement premier club non qualifié pour la Ligue des Champions. Gérone et le Real Madrid qui s'affronteront le week-end prochain pour peut-être déjà le match du titre en Liga. Très belle histoire, cette équipe de Gérone.
Dingue. Très surprenant.
Très surprenant.
Nouveau dans l'histoire.
Première équipe de Catalogne.
Oui, c'est déjà être devant le Barça, pour eux, c'est déjà une victoire.
Ouais, c'est devant le Barça. Devant le Barça.
Mais il ne s'écroule pas.
Hein, il s'écroule pas.
Alors après, le niveau espagnol est un peu décevant cette année.
Ouais.
Tant du Real que du Barça, n'en parlons pas. Mais je trouve que... Enfin, ils nous avaient habitués depuis des années à être, même à un moment, au-dessus du championnat, au-dessus des Anglais. Et là, clairement, on sent que les deux moteurs sont un peu rayés.
Ouais. Et surtout, du côté...
L'après-midi Ronaldo. Hein.
Ouais,
c'est une génération qui est tournée la page.
Ouais, c'est ça.
Et le Real en attendant... Comment s'appelle-t-il encore?
Kylian Mbappé.
Là, à mon avis, on a la transition Benzema-Mbappé.
Ouais. Je ne sais pas si tous les supporters du Real voient ça d'un très bon œil après les différents retournements de veste de la star française lors de ces dernières années, qui lui a l'air d'en avoir un peu marre de sa vie du côté de la capitale française. En Italie, l'Inter s'impose face à la Juventus. L'Inter prend donc 4 points d'avance en Serie A sur son rival Bianconeri. C'était assez logique au vu de la bouillie de football proposée par la Juventus depuis le début de la saison et le football plutôt attrayant que nous offre l'Inter de Milan depuis le début de cette saison. Donc je l'ai dit, l'Inter qui a 4 points d'avance sur son rival Bianconeri en Serie A. Retour vite fait en Première Ligue, Chelsea qui sombre une nouvelle fois. Défaite 2 buts à 4 face à Wolverhampton, exact. Et la sortie de Pochettino se fait de plus en plus demandée et pressante. C'est d'ailleurs ce que demande la femme de Thiago Silva, qui n'a pas sa langue dans sa poche sur les réseaux sociaux. Elle l'avait déjà fait plusieurs fois du côté de Paris. Elle a demandé la démission, ou en tout cas le limogeage de l'entraîneur Pochettino. Pour finir là-dessus, c'est jamais bon quand les fans de joueurs se
mettent. Et en fait, pour reprendre les exemples qu'Alex a donné, en fait, tout le monde sait que maintenant Thiago Silva, pour son prochain club, il faut mettre une clause dans son contrat, comme quoi sa femme s'engage à ne plus tweeter sur le travail de son mari pendant toute la durée du contrat. Je me ferai un plaisir d'écrire ce type de clause. Maintenant que tu m'as donné des super idées.
Ah, n'hésite pas, j'en ai encore plein pour le mercato estival.
Et voilà, on prêtera attention à toutes ces clauses, comme bon, ça c'était sur le plan sportif, mais la fameuse clause Ballon d'Or pour Anthony Martial lorsqu'il a signé à Manchester United, tout aussi drôle que les clauses que Alex nous a citées tout à l'heure. Il est 20h55, on approche de la fin. Un dernier mot pour l'un de vous?
Ah, écoute, c'est la Coupe de Belgique cette semaine.
Hein. C'est la Coupe de Belgique cette semaine.
Alors, je pense qu'on n'est pas vraiment privé de foot pour le moment. Hein. Moi, il me faut beaucoup avant une overdose. J'ai quand même un gros estomac.
Est-ce que tu as regardé Qatar-Tadjikistan à la Coupe d'Asie des Nations?
Non, j'ai pas bien suivi. J'ai suivi que le Japon était éliminé. Je pensais qu'ils étaient favoris, moi. Ouais. Mais par contre, c'est vrai qu'on a devant nous des échéances assez excitantes. Au fur et à mesure, voilà, que le printemps va arriver. Hein. Mm-hmm. On a, comme l'a dit Alex, la Coupe de Belgique. On a, on est à
la Ligue des Champions qui revient la Ligue des
les coupes d'Europe qui reprennent. Ouais. On a en Belgique les playoffs qui vont commencer d'ici un mois et demi, un gros mois et demi. Et puis on a la préparation pour l'Euro. Ouais. Moi j'ai déjà mes tickets. je m'en réjouis.
Oui. Tu vas voir quel match?
Le troisième. Donc on ne sait pas encore contre qui.
Ah,
à Stuttgart. Ouais.
Le troisième de la Belgique.
Le troisième de la Belgique.
D'accord, ok. De la Belgique, ouais. À Stuttgart, très bien. Eh bien, tu nous feras un petit.
Je sais que nous ferons une émission spéciale pendant tout l'Euro, donc je n'hésiterai pas à faire mon petit direct en tout cas pour ce match-là.
tu nous appelleras en direct de Stuttgart avant ou après le match. Sur les ondes de Radio Judaïka. Et il est 20h57. Henri, merci beaucoup d'avoir été
avec nous. Merci Blaise. Merci à tous. Merci.
Avec plaisir.
Alex, merci.
Merci Blaise, merci
à tous. On se retrouve la semaine prochaine sur ce plateau, même heure, pour une nouvelle émission footballistique. On joue la prolongation. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve donc la semaine prochaine, comme je viens de le dire. Et la suite de la soirée sur Radio Judaïka, c'est de la musique. Et on commence par Little Talks de Of Monsters and Men. Bonne soirée.